Il y a des gens du nom de famille Bougon actuellement en France qui sont un petit peu déçus de la décision du gouvernement parce qu'ils ont demandé que la série ne soit pas diffusée parce qu'ils ont peur que ça porte préjudice à leur identité et semblerait-il qu'ils ont enfin passé à la conclusion qu'il n'y avait pas de risque imminent. Alors c'est pas ben drôle. Moi j'ai mon nom de famille c'est Marié, t'sais. Puis j'avoue que ça pourrait.
Mais c'est moi qui est célébrant puis qui fait des mariages.
Oui, c'est ça qui est pas normal, hein, effectivement. Mais si je m'appelais, exemple, Monsieur Cochon, et qu'il y avait la série Les Cochons, et que c'était le nom de famille d'une, hein, c'est parce que c'est vraiment la famille Bougon, là. C'est quelque chose, c'est pas très drôle, là.
Mais ça me surprend qu'en France, la télésérie va vraiment porter le nom Bougon.
Mais oui!
Seulement, il est chiant. C'est comme un gars, une fille. Je pense qu'ils vont appeler ça autrement en France.
Hein. Ah, un mec, une garce. Ah. Bon, alors, suffisamment de niaiserie. C'est ceci qui met fin au matin musical d'Alain Marié. Nous étions avec vous depuis 6 heures ce matin, mine de rien. Ah, ben oui, c'est le cheval qui se...
Vraiment, on reste avec le positive thinking.
Le positive thinking. Allez voter.
Oui, très important.
Dans exactement 31 minutes, les bureaux de vote seront à votre disposition.
Nous avons un privilège et une chance, c'est de la démocratie d'aller voter. Donc, faut aller voter.
Alors, voilà. Là-dessus, je vous laisse en pub et ça vous mènera vers une heure d'émission avant le titre de l'émission qui suit. Pardonnez-moi, mais malheureusement, je vois Jenny. Alors, Jenny, c'est l'émission de Jenny. J'aimerais... Le titre?
Radiotonique,
ben oui, écoute, ça fait 3 ans. Vous savez l'expression, 25 ans dans une étable, trop bête faire une vache. Moi, ça fait 3 ans que j'étais à Radio-Centreville, je pense que je suis trop bête faire un animateur. Non, mais oui, c'est Radiotonique, effectivement. Quelle question, c'est toujours la même excellente émission qui est là dès 9h. Alors, bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, déplacez votre postérieur, ou si vous en avez pas, c'est pas grave, déplacez ce que vous avez en direction du bureau de vote afin d'honorer notre beau système démocratique.
Et s'il y a quelque chose, on peut trouver toutes les informations sur Élections Canada sur Internet.
Wow, c'est pas complet ça.
Vous avez du mal à vous y retrouver dans le système de santé? Du 13 au 17 octobre, surveillez votre boîte à lettres. La brochure Accès Santé sera distribuée dans tous les foyers de Montréal. Une initiative de votre centre de santé et de services sociaux pour vous faciliter la vie.
Radio Centre-Ville vous propose quelques bons endroits où acheter vos produits équitables, produits naturels, produits biologiques et encore plus. Voici un de nos partenaires.
Nettoyons le mieux vous offre depuis 1993 des produits écono et écolo en vrac. Des produits pour le corps et une vaste gamme de produits ménagers. Plus de 42 points de vente. Pour nous connaître et vous informer, visitez nettoyant au pluriel -écolo-lemieux.com.
Radio Centre-Ville vous invite à découvrir ses partenaires de choix. Afin de les connaître, visitez radiocentreville.com.
Bonjour, je suis un conducteur.
Bonjour, je suis un piéton.
Chaque jour, nous partageons la route et nous empruntons les mêmes chemins. Mais aux intersections, on pense qu'on a tous les deux priorité.
Mais c'est moi qui ai priorité.
Moi.
Pas toi.
Moi.
Ah!
Vous voyez? C'est dans ces situations que des accidents se produisent.
Piétons, respectez la signalisation et assurez-vous d'être vu des conducteurs.
Conducteurs, cédez le passage aux piétons et soyez vigilants. On est tous responsables de notre conduite.
Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Le bel âge est de retour avec ses animateurs Stella Tremblay et Jean-Claude Duclos tous les mardis entre 10h et 11h. Mardi, le 14 octobre, l'invité sera Madame Marguerite Blais. Ne manquez pas le bel âge tous les mardis entre 10h et 11h.
Bonjour tout le monde, mardi matin 9h, c'est Radio Tonique. Alors, bonjour chers amis à cette nouvelle édition de Radio Tonique en ce jour d'élection. J'espère que vous allez tous les gagner, quoique j'en doute. J'imagine qu'il y a une partie d'entre vous qui seront assez contents ce soir et une autre partie qui devront attendre un autre 4 ans avant de se prononcer. Moi, aujourd'hui, je vous convoque à une émission assez intéressante. Nous recevons Dorothée Pock qui va nous parler de biodance et aussi à la chronique de Benoît Guérin qui nous parle aujourd'hui des groupes de soutien ou de ce qu'on appelle communément les groupes d'entraide. Alors, mais auparavant, j'aimerais un petit peu vous parler d'optométrie. Et oui, pour un psychologue, ça fait un peu bizarre. J'aimerais vous parler de l'optométrie psychologique, c'est-à-dire de ces lunettes que l'on apprend à se mettre sur le nez pour regarder la réalité et interpréter cette réalité-là selon les croyances qu'on nous a lentement apprises à observer et à cultiver. Je serais prête à gager que vous n'avez jamais pensé que même notre cerveau avait besoin de lunettes avec l'âge. Eh bien, malheureusement, tel est bien le cas. Et je m'explique. Lorsque nous sommes encore tout petits, nos parents nous expliquent un tas de choses. Il faut obéir à papa, à maman, ce qui est une excellente chose pour la bonne marche de la petite famille, n'est-ce pas? On nous a appris à ne pas nous faire écraser dans la rue, ce qui est encore un détail fort important à comprendre. On nous a dit que les épinards étaient bons pour la santé, qu'il faut se brosser les dents quelques fois par jour, qu'il faut se laver, etc. Ces choses-là sont des incontournables. Ces informations se comparent aux premières pages du livret de l'utilisateur, si vous remarquez bien, lorsqu'on est informé qu'il faut surtout pas apporter son radio ni son séchoir dans le bain, à moins de vouloir risquer d'être au courant dans tous les sens du mot. À cela s'ajoute, à tous ces apprentissages, s'ajoutent les codes sociaux, le respect des horaires scolaires, le code de la route, le code d'éthique, le code alimentaire et le code de conduite en classe et ensuite au travail. Il faut manger à telle heure, dormir à telle heure, se lever à telle autre heure pour arriver à l'heure, payer ses factures, faire ses impôts, etc., etc. Une série de filtres, donc, qui avaient pour but à ce moment d'apprendre à notre cerveau certaines règles dans le but de faciliter le bon voisinage avec les autres corps autour de nous. Il faut bien dire que ces choses-là ne nous intéressaient guère lorsque nous étions enfants. Nous aimions bien plus jouer avec les copains, nous faire des igloos dans la neige ou encore courir avec les sauterelles dans les champs. Je ne sais pas si vous avez fait la même chose que moi, mais on courait après les sauterelles et on leur demandait de donner du miel. Sinon, je te tue. On n'en tuait jamais une, mais disons que c'était quand même assez trillant. Ensuite de ça, on nous a appris qu'il y avait un Dieu, un enfer et un paradis. Ça fait beaucoup en même temps, avouez. J'avais demandé à ma mère à ce moment-là qui était Dieu. Elle m'en avait donné une description assez détaillée. Un homme du troisième âge qui se rasait rarement et qui prenait plaisir à écouter l'ensemble de la création le louanger à coups d'alléluia. Dans ma petite tête, j'avais visualisé alors le stade olympique rempli à craquer avec le vieux au milieu et tout le monde en train de faire la vague. J'avais demandé à ma mère, inquisitrice que j'étais, à quelle heure le spectacle se terminait. La réponse m'envoya au plancher. « Jamais, » répondit-elle. « Jamais. C'est pour l'éternité, ma chérie. Oh là là. » Ce fut ma première crise d'angoisse, je vous avoue. Je comprends maintenant que ce genre d'éternité est très long vers la fin. Puis, ce fut le tour des hommes, de l'amour, du mariage, du rôle du parent. J'avais tellement de choses à apprendre avant même de savoir l'essentiel. L'essentiel, où j'étais, maman, avant de naître. Ça veut dire quoi mourir? Pourquoi ne voit-on pas ceux qui sont au paradis? Est-ce que tu vas mourir bientôt? Pourquoi tu pleures? Pourquoi on est s'il faut mourir? Moi, j'avais toujours trouvé ça un peu stupide de naître s'il fallait absolument mourir. Je me disais, ça n'a pas d'allure, tu sais. Tu nais, puis il faut que tu meurs. Alors, ça, c'est pas... Ma mère me répondait, « Tu poses trop de questions, Janie. Tu poses trop de questions. Tu m'agaces. C'est comme ça. Le travail n'est pas toujours drôle. La vie n'est pas toujours drôle. Et puis, arrête de loucher car tu vas rester les yeux crochus. Et il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être heureuse. Il faut souffrir partout. Il faut souffrir pour être aimée. C'est ça, les lunettes de la vie, voyez-vous. C'est ça, c'est ce que je veux vous parler ce matin. C'est d'optométrie. C'est de ces lunettes-là qu'on apprend à se mettre sur les yeux pour regarder la vie à travers des filtres, des croyances, des pensées, des choses qu'on nous a dites lorsque nous étions enfants et que nous avons cru parce que nous aimions ceux qui nous les disaient, ces choses-là. Les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela, les noirs sont comme ceci, les musulmans sont comme cela. Jusqu'au jour où la mémoire remplit de toutes ces informations, un peu comme un ordinateur qui n'en peut plus d'avoir tant de données sur son disque dur, des informations venues de partout, de maman, de papa, de l'école, des livres, de la télévision et de la radio, il ne reste plus de place pour ces questions qui étaient jadis si importantes. Où j'étais avant de naître? Où va-t-on lorsqu'on s'en va? Alors on s'est dit à soi-même, tu poses trop de questions. Le travail n'est pas toujours drôle, la vie n'est pas toujours drôle, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être aimée, et c'est comme ça, c'est tout. On voudrait bien changer les choses, être plus heureuse, être plus heureux, retrouver ces joies gratuites qui étaient si abondantes jadis. Mais les lunettes nous collent au visage et nous en venons à croire que sans tous ces codes, tous ces filtres, toutes ces croyances, nous ne pourrions plus rien voir. Alors, nous nous accrochons à ces idées. Et pourtant, il suffirait de peu de choses pour retrouver tout cela. Il suffirait de savoir d'abord que nous avons maintenant le droit de choisir une nouvelle fois nos filtres, nos lunettes, nos croyances, nos idées. Décider, par exemple, demain matin, chaque matin à venir, de choisir que la journée mène vers autre chose que la répétition de celle de la veille. Bien sûr, la chose est plutôt inconfortable au début, parce qu'on a l'impression d'inventer et de s'en aller vers l'inconnu. Vous savez que c'est pas très agréable de s'en aller vers l'inconnu. L'être humain a toujours détesté aller vers l'inconnu. Il n'est pas facile de savoir d'où je viens. Mais par contre, il est possible de le sentir. Il n'est pas possible de savoir où je vais, mais par contre, il est possible de l'imaginer. Il n'est pas facile de jeter la carte routière, car le paysage que l'on voit alors est mille fois plus complexe qu'une carte. On peut se perdre dans un paysage. On ne se perd jamais sur une carte routière. Alors demain, je verrai la vie avec d'autres yeux, d'autres lunettes. Pourquoi pas les lunettes de la foi en moi? Pourquoi pas les lunettes qui me font voir ma beauté, ma bonté, mon innocence? Pourquoi je ne naîtrai pas chaque jour? Comme ça, je saurai d'où je viens. Je viens de la veille. Et lorsque le jour se terminerait, je saurai où je vais. Je vais vers le lendemain, tout simplement. Alors demain, je vais sortir de la plus grande des folies, celle de croire que je suis le résultat de tous ces codes auxquels je ne crois plus. Alors maintenant, nous allons à la pause avec une pièce musicale de circonstance, la pièce de Patrick Bruel qui s'appelle « Qui a le droit ?». C'est un remix de Jenny Autry. Cependant, j'ai un petit peu retravaillé l'ensemble des pistes. Après quoi, nous revenons avec la chronique de Benoît Guérin sur les groupes d'entraide. Alors, à tout de suite.
On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air
et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci, merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil. Ou bien il brûle, tu meurs de soif, ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires, tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs. Nos angoisses et nos doutes.
J'ai avec moi un de mes chroniqueurs préférés, Benoît, qui nous fait une chronique aujourd'hui. Alors, Benoît nous a fait une chronique le 16 décembre dernier.
Le 16 septembre.
Le 16 septembre. J'étais un petit peu perdue, je crois. Alors, il nous a fait une chronique où il nous parlait de son cheminement personnel. Et là, aujourd'hui, à l'intérieur de cette chronique-là, on parlait beaucoup des groupes d'entraide. Et je me souviens que on avait mentionné qu'on reviendrait sur le sujet. Alors aujourd'hui, Benoît, j'aimerais ça que tu puisses continuer à nous parler de groupes d'entraide. Et c'est très important, ça. Puis j'ai beaucoup à apprendre là-dessus.
Ah ben certainement, Jeannie Audrey, ça me fait plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu les chroniques que je fais depuis un bout, ils doivent se dire, mais mon Dieu, dans quoi il tombe, lui-là? Quand même pas oublier qu'on a ouvert comme trois chroniques un peu plus, qui ont l'air un peu plus personnelles, mais qui font quand même partie du cheminement quand on parle d'un citoyen du monde. C'est bien beau les grandes idées puis les problématiques un peu plus approfondies, mais il faut avoir un terreau pour les vivre. Alors, c'est dans cette optique-là que cette série de chroniques-là se fait. Et quand je parle d'entraide, évidemment, moi, j'en ai vécu, là. J'ai été voir, tout le monde peut aller voir, mais c'est tellement méconnu, l'entraide. Moi, j'ai connu ça, j'avais autour de 25 ans. J'avais jamais entendu parler de ça, sauf des clichés. Hein? Le AA qu'on voit dans un genre de petit film là, qui fait « Bonjour, mon nom, c'est Johnny, je suis un alcoolique ». Là, toutes les autres, ils font comme « Salut, Johnny ». Là, nous autres, on part à rire, on fait « Mon Dieu, c'est un genre de secte ». Si je connaissais à peu près juste ça, des groupes
surtout
anonymes.
L'aspect aussi religieux, tu sais.
Ah, il y avait l'aspect
moi,
religieux.
Ça m'a longtemps bogué par rapport à bogué, agacé.
Alors, parlons-en. Oui. Puis, pourquoi on partirait pas de là puisque tu l'as
d'accord.
Dans les groupes anonymes, ce qu'on appelle un groupe anonyme, là, ça a une particularité. Il y en existe plusieurs sortes. J'ai entendu toutes sortes de chiffres, j'ai pas fait une recherche exhaustive en 2008, là, mais à l'époque, on parlait d'à peu près 80 sortes de groupes anonymes. Pas deux, trois, là. De nombreuses sortes. On s'entend, juste faire un petit topo historique, autour des années 30, le premier groupe anonyme digne de ce nom, c'est les AA. On est au début des années 30, on est dans la pagaille totale avec ces maudits alcooliques-là, on réussit à rien faire en médecine, c'est des cas perdus, on fait rien. Et là, la médecine, c'est a croisé le fer avec cette idée-là qui est venue spontanément. On se réunit ensemble, puis on s'entraide. Pas de médecin, pas de spécialiste, pas de psychiatre. Oh, on s'entraide.
C'est intéressant de savoir l'historique. Hein?
Oui, c'est comme ça que c'est parti. Et ça a fait un méchant pow! Parce que là, il y a des médecins qui suivaient certains de ces gens-là qui n'en sont pas revenus. Donc, ils ont eu l'appui de la médecine. Ils ont fait comme, excuse-moi, là, on n'a aucune solution, nous autres, pour ce genre de monde-là. Il revient dans mon bureau deux mois plus tard, puis il est complètement transformé. Ça fait que, peu importe ce qu'il vit, ça vaut la peine d'aller voir. Et les AA, là, ça l'a grossi là, une traînée de poudre. C'est parti aux États-Unis. Et comme toute affaire qui a le moindrement de beaucoup de bon sens, ça s'est mis à grossir à une vitesse folle. Et là, ils ont bâti, dans les 10, 15, 20 premières années, ce qu'on appelle la base de tout mouvement anonyme, les 12 étapes et les 12 traditions. On entend souvent aussi une expression qui est notre méthode. Mais un mouvement anonyme, qui fait partie des 80 dont je vous ai parlé, ben ça a 12 étapes, 12 traditions, c'est sûr.
Ouais, mais moi, je me dis, Benoît, disons 12 étapes, 12 traditions,
oui.
Mais en plus, c'est très teinté de croyances catholiques. Là, tu sais.
OK, alors j'y viens. L'une des étapes, la 11e, si ma mémoire est bonne, invite la personne qui chemine à un cheminement spirituel, invite la personne qui est dans un mouvement anonyme à cheminer spirituellement pour être nourri d'autre chose que, par exemple, de matérialisme ou de trucs comme ça. Ils ont l'impression que ça aide. Ça aide aussi de s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi. Mais attention, par exemple, ce qu'on appelle le gros livre des AA, qui est la Bible, la base de tous les mouvements anonymes, mentionne très bien que ce n'est pas... Il n'y a aucune croyance particulière qui est reliée à ça. Évidemment, quand les AA des États-Unis des années 30 parlaient, il y avait très peu de gens qui étaient ou non-croyants, ou bouddhistes, ou musulmans, on s'entend. C'était des catholiques. Alors, ils parlaient de Dieu. Mais si vous allez voir dans le livre des AA, vous allez voir qu'il y avait des gens agnostiques qui croyaient en rien, qui avaient leur place dans AA. Ils avaient le droit. Ils prenaient, par exemple, comme puissance supérieure, les autres, le groupe. Oh mon Dieu! Ben oui, tout à fait. Il y a beaucoup de partages dans AA qui disent « C'est tout à fait acceptable si tu veux pas croire en Dieu. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun aspect religieux nécessaire pour être dans AA. » mais plusieurs l'utilisent.
Faut pas être catholique ou tu peux entrer là même si t'es islamiste.
Tu peux même ne pas croire, là. Pendant toute la durée, là, je connais des gens qui sont là-dedans depuis plusieurs dizaines d'années. Ils croient pas en Dieu, pas du tout.
Ils appellent ça l'être supérieur.
Ils appellent ça une puissance supérieure. Peut-être même pas un être. Parce que là, ça pourrait exclure des gens comme les bouddhistes qui croient pas en un être supérieur. Mais non.
Comme toi.
Ou toi. non, Johnny. En fait, ce que j'ai rencontré là-dedans, moi, de fascinant, c'est l'entraide. La base, qui est même pas dans les 12 étapes ou dans les 12 traditions. Les traditions, en passant, c'est ce qu'ils ont écrit pour essayer de bien fonctionner dans un groupe. L'anonymat, les groupes anonymes, sont une des traditions. Va pas dans les médias comme un superstar parler de ton groupe anonyme. On va plutôt envoyer un acteur ou quelqu'un qui va parler. Comme ça, ça va éviter l'espèce de vedette spontanée qui est dans les AA, puis le lendemain qui se saoule, puis là, tout le monde pense que les AA, ça vaut rien. Bon, il y a eu des traditions comme ça. Mais la base, pour moi, ce qui est génial, c'est qu'on rentre dans un endroit où il y a des gens qui nous ressemblent, mais d'une manière troublante.
Toi, t'as fait partie de ça, toi?
Moi, j'ai fait partie de certains groupes anonymes. Il y en a, quand je suis arrivé là, j'étais comme beaucoup de gens arrivent au groupe anonyme en crise. Il y a une période de leur vie où ils n'arrivent pas à régler quelque chose, comme les premiers AA, que les médecins ne peuvent rien,
avec un sentiment de honte, j'imagine.
Un sentiment de faillite, et des fois une faillite financière et tout le reste. Les gens qui sont au bout du rouleau, tu comprends, ils trouvent pas d'autres solutions. Avant d'aller là, d'avoir l'humilité de rentrer dans un endroit comme ça, pour moi, surtout qui était un universitaire, là, qui avait des idées très préconçues sur l'aide, hein, l'aide, ça doit aller avec des diplômes, etc. Alors, rentrer dans ce genre de petite salle-là, mais oh, surprise, c'était du monde comme moi, ça. Du monde d'une intensité très semblable à la mienne, que je voyais pas très souvent dans la société. Et c'est ça qu'il y avait dans ces salles-là, sauf qu'ils consommaient plus. Ou ils étaient, les groupes, en général, ils sont tous pris avec des dépendances, les gens. Mm-hmm. Peu importe la sorte, dépendance sexuelle, dépendance affective, dépendance aux drogues, à l'alcool, dépendance... Bon, vous voyez le portrait, au jeu.
Nous autres, on sait bien, tu sais, dans le domaine de la psychologie, que les gens dépendants, souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup de cœur, si tu me permets l'expression.
Ouais. C'est ce que, moi, je trouve, en tout cas, c'est des gens extrêmement intenses, les dépendants, on le voit. Alors, quand on se retrouve avec des dépendants, organisés en plus, qui commencent des réunions à telle heure, qui finissent à telle heure, qui sont capables d'avoir du fun, mais en travaillant sur leur vie, mon Dieu que je me suis reconnu. J'avais jamais vu ça, des milieux comme ça. J'ai fait comme, pourquoi vous m'avez caché ça? C'est donc bien beau. Ben oui, il y a des petites manières. C'est pas juste beau, hein. C'est pas des saints qu'il y a là-dedans, là. C'est des gens qui se rétablissent, qui trouvent des manières de vivre qui sont plus saines. Mais ça en fait pas des saints. Mais ça fait des Moses de beaux milieux. Moi, je les fréquente encore, parfois pour redonner. La dernière des étapes leur dit, à cette heure que t'as reçu, là, oublie pas de te décentrer de temps en temps, puis de donner un peu. Pas de donner tout, là, mais de redonner un peu.
Et toi, ça t'a vraiment sorti de...
Moi, ça m'a sorti de mes problématiques complètement. Et j'ai l'intuition que cette entraide-là est beaucoup plus intelligente qu'on le pense. Le fait de s'occuper un peu des autres dans notre vie, ils ont pas mis ça dans leurs étapes, eux autres, comme quelque chose de fondamental. Ben, ils l'ont mis, là, la 12e étape, occupe-toi un peu des autres.
Ça veut dire qu'on peut pas se sauver tout seul.
Non, on n'est pas tout seul, on le sait maintenant. Hein. Il y a beaucoup de gens, on va le voir avec la méditation.
On le sait pas vraiment dans notre société, laisse-moi dire, je pense qu'on a oublié ça.
On est plutôt individualiste et on pense qu'on peut trouver s'approprier le bonheur, s'approprier, là, tu sais. Mais dans ces mouvements-là, il y a ça de génial. Alors, on rentre avec des gros troubles, on écoute les autres. Bizarrement, on va mieux. Ah, mon Dieu, il touche à quelque chose. Hein? D'ailleurs, on s'en reparlera quand on parlera de la méditation, mais quand les bouddhistes sont arrivés ici, le Dalai Lama, semble-t-il, une des choses qu'on entend, quand il a entendu parler de ces mouvements-là, il a dit, ah, mon Dieu, c'est une des choses les plus brillantes que j'ai vues en Occident. Parce que l'entraide, l'espèce de décentration, c'est aussi à la base du cheminement spirituel. Hein?
Mais Benoît, j'aimerais ça, parce qu'il ne reste pas vraiment beaucoup de temps, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que là, tu nous as parlé des AA beaucoup, et on sait après que, comme tu mentionnais au début, il y a 60 types de groupes d'entraide, tu sais.
Près de 70,
Près de 70. Ça aide qui, ça?
Ça peut aider les gens qui ont des problèmes de poids. Grosse fraternité, ça veut dire qu'il y a des réunions tous les soirs à Montréal, et même plusieurs. C'est ça, une grosse fraternité. À Montréal, puis plus on va vers la région, moins il y en a. Bon, donc les outre-mangeurs, mangeurs anonymes. Par exemple, une autre grosse fraternité, les gamblers anonymes, évidemment, avec nos casinos qui pointent un peu partout. Mmh. Alors, ils se rencontrent. Une des discussions dont j'en jasais tantôt, c'est des fois de trouver la bonne appellation. Il y avait un groupe, je sais pas s'il existe encore, pour ceux qui voulaient arrêter de fumer la cigarette, il s'appelait Nicotine Anonyme. C'est weird, tu vas dire.
Pas évident, non?
Dur à trouver. Mm-hmm. Alors, il faut faire des recherches un peu plus approfondies, des fois, parce qu'il n'y avait pas le droit de porter le nom de fumeur anonyme. Je suppose qu'il y avait un autre groupe qui n'était pas 12 étapes, qui avait déjà pris le nom. Alors,
pornographie anonyme, ça existe-tu?
Il existe un groupe pour les gens qui ont des addictions avec le sexe, bien sûr, mais là, je pourrais pas dire le nom. Moi, je l'ai pas vu, celui-là. J'en ai visité plusieurs. Émotif anonyme, un énorme groupe.
Je lance un message. Si vous le savez, si quelqu'un le sait, écrivez-nous-le à radiotonique@live.fr. radiotonique@live.fr ou encore en allant sur le site radiotonique.com. Et là, vous allez dans ressources, vous allez voir Jeanne Audrey ou Benoît Guérin. Écrivez-nous et dites-nous, donnez-nous l'information.
Oui, puis si vous avez des commentaires sur les groupes anonymes, là, écoutez, moi, je les ai pas tous faits, mais il y en a plusieurs que j'ai fait, que je suis allé voir, émotifs anonymes, je le disais tantôt, c'en est un beau, ça, pour les gens. Les gens disent, oh, moi, je suis pas alcoolique, je peux pas aller... Il y a de très gros groupes comme dépendants affectifs anonymes et émotifs anonymes. Beaucoup de réunions dans émotifs anonymes.
Dépressifs anonymes.
Dépressifs
aussi,
anonymes existent aussi, oui.
Pour à peu près toutes les formes de souffrance,
oui.
Je dirais.
Oui, exactement. Toutes les formes de souffrance persistante, de dépendance ou de trucs comme ça. Alors, pour moi, c'est une découverte incroyable que de mettre l'entraide au centre de sa vie. Au rythme où on veut, évidemment. Pas, c'est, y a pas de médicaments miracles qui soignent tout, là.
Moi, j'ai réalisé au début, Benoît, tu sais, quand je voyais des clients au début, en tant que psychologue,
oui.
Souvent, les gens mettaient, il y avait comme une espèce de polarité entre est-ce que je vais avoir je vais être en psychothérapie ou si je m'en vais dans un groupe anonyme. Moi, je trouve que les deux se complètent. Il n'y a pas de un là, l'autre là pas.
Moi, j'ai fait les deux.
Oui, toi, t'as fait les deux.
J'ai fait les deux. L'avantage du groupe anonyme, c'est quand on arrive, on est dans une très grosse problématique, ben ils sont disponibles tous les jours, on n'a pas besoin de payer, ils sont gratuits. Mon Dieu, quand on arrive bien poqué, c'est un gros plus, hein, pour en appui à notre démarche.
Est-ce qu'il y a les heureux anonymes?
Les quoi?
Les heureux anonymes.
Les heureux anonymes, non.
Ça serait bien qu'il y ait un groupe...
Les heureux, c'est le résultat de tous les groupes anonymes. C'est censé être le résultat, là. On voit. Alors, ils reviennent.
Mais on pourrait se faire des méchants parties là-dedans.
Oui, effectivement. Mais ça serait les malheureux anonymes qui et dans tous les groupes, t'as des gens qui l'ont plus, la problématique. D'un groupe AA, il y a plein de monde qui fait 20, 30, 40, 50 ans, ils boivent plus, eux autres. Il n'y en a plus de troubles.
Donc, le party, il est là.
Le party, il est là. Ben oui, tout à fait.
Ben, Madoua, merci beaucoup de ta chronique. On va passer à une pause et puis tu nous reviens dans une prochaine chronique aussi là-dessus, un petit peu pour continuer sur du pratique.
Ben, on va parler la prochaine fois de tout ce qui est méditation ou en tout cas, on va voir les pratiques de l'attention. Qu'est-ce qui peut nous permettre individuellement là, de faire un autre bout de cheminement?
On va s'envoler vers les hautes sphères de la spiritualité.
Bien, voilà. Alors, ça a été un plaisir.
Alors, c'est bien. Alors, quant à nous, nous nous dirigeons vers la pause, une pause musicale avec le groupe Opossum qui sort justement son CD vers la mi-octobre, et un CD qui porte le titre de La pire espèce. C'est une musique absolument merveilleuse, un mélange de jazz et de pop. Alors, je voulais faire entendre dans une pièce qui s'intitule Les yeux trop grands. Alors, à tout de suite.
Je me demande ce qu'ils font. et de l'incantation. Une danse de communication en caleçon. Ouais, j'ai vu une fois à la télévision. J'apprends les jeux de société à remplir et puis vider, à construire pour casser, à gagner que pour gagner. Elle aime tellement le papier qu'elle arrive à m'oublier sous cette couche de société. Cette couche de merde à ma peau collée, cette couche qu'on m'a bien trop tôt enlevée, cette couche que bientôt, oui bientôt, je lui changerai. Le soleil endormi transforme ma maison en soulerie.
Alors, nous sommes de retour après la pause et j'ai le plaisir maintenant de m'entretenir avec Madame Dorothea Pock, qui est une praticienne et un professeur dans le domaine de la biodanza à Montréal. Alors, bon, merci beaucoup d'être venue avec nous, Madame Pock.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est que la biodanza?
Oui, certainement. La biodanza est un système de réhabilitation de l'élan vital, de la joie de vivre, de la capacité de nous rencontrer et de toutes ces choses si importantes que l'humain a tendance à oublier. Et donc, la biodanza réhabilite organiquement tout ce qu'il y a de merveilleux dans le vivant.
Donc, c'est une forme de thérapie, finalement?
On peut dire que la biodanza a des effets thérapeutiques, mais elle n'est pas considérée une thérapie. Mm-hmm. Car dans la définition d'une thérapie, on s'occupe du bobo, on s'occupe des problèmes, on s'occupe des symptômes ou des maladies. Et dans la biodanza, on fait exactement le contraire. On ne s'occupe que de la partie saine de l'individu, de ce que chacun de nous a encore au centre de chacune de ses cellules, de sagesse vivante et de capacité inaltérée et éternellement présente de se régénérer et de se retrouver à soi-même, de se retrouver en contact avec la vie.
Au fond, ce que vous dites, c'est qu'à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de chacune de nos cellules, il y a encore le blueprint, si je peux m'exprimer comme ça, de la vitalité première qu'on avait lorsqu'on est né, par exemple.
Oui, pas seulement de la vitalité, aussi de tous les instincts et de toutes les potentialités de l'être vivant, de l'affectivité, de la sensualité, de la transcendance, de la créativité. Tout ça est encore intact.
Ça vient de où, ça, la biodanza?
La biodanza a été créée par un monsieur très charmant qui s'appelle Rolando Toro, qui est un anthropologue et psychologue chilien. Il a créé ça dans les années 60.
Mon Dieu, ça fait longtemps que ça existe.
Oui, ça existe et ça existe depuis très longtemps, surtout en Amérique du Sud et en Europe. Ça a pris une très grande ampleur, mais ça prenait quelques pionniers pour venir enseigner la biodanza en Amérique du Nord.
Ouais, parce que si, ça fait pas très longtemps qu'on
connaît ça.
Ça
fait à peu près 6 ans et on a réussi avec énormément d'efforts et avec des gens très dédiés qui venaient une fois par mois d'Europe donner les cours. On a réussi à former l'école de biodanza de Montréal et nous avons maintenant des professeurs locaux québécois. C'est la première école de biodanza en Amérique du Nord.
Et cet homme-là dont vous parlez, un Américain du Sud?
Oui, chilien.
Un psychologue chilien, oui. Qu'est-ce qui l'a amené à fonder cette biodanza? Est-ce que c'est un danseur, lui aussi?
C'est pas du tout un danseur, c'est surtout un anthropologue, mais il danse aussi, je veux dire, mais c'était pas la carrière de sa vie. Il a travaillé surtout dans les hôpitaux psychiatriques et en observant l'effet que la musique avait sur les patients, Et c'est comme ça qu'il a développé sa méthode et qui a développé toute la méthodologie du système biodanza, qui est très précise et qui a un choix musical très précis. La sémantique musicale est très étudiée, car la musique réveille en nous, provoque en nous des émotions particulières.
Alors donc, il y a un répertoire très spécifique et aussi des types de danse, des mouvements, je suppose, qui sont très, très bien prévus selon la musique.
La musique est très bien prévue, les mouvements pas tellement. Non. Il ne s'agit pas du tout d'une chorégraphie ou d'apprendre à danser. En fait, on dit en biodance que tout le monde sait danser, la vie danse. Alors, elle peut danser à travers chacun de nous, de manière individuelle, particulière. Et donc, il ne s'agit pas en biodanza d'apprendre à danser, il s'agit de réveiller le mouvement naturel de l'être humain, de réhabiliter son mouvement naturel, qui est différent pour chacun.
Moi, quand j'ai été voir sur Internet un peu, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est un petit peu le retour à la vitalité. Retrouver sa vitalité profonde, son excitabilité, je dirais, sa sensualité.
Voilà, retrouver tout ce qui est instinctif, réhabiliter toute cette capacité d'émerveillement et d'explorer au maximum toutes les potentiels qu'on a, et que la plupart du temps, on passe notre temps à endormir au lieu d'utiliser.
Oui. C'est vrai. Oui. Et vous, Dorothea, qu'est-ce qui vous a intéressé? Comment vous vous êtes intéressée à la biodanza? Ça fait longtemps que vous
Je fais la biodanza depuis environ 6 ans.
Okay. Donc, au tout début de l'arrivée de ça au Canada.
Oui, okay. Oui. Avant, j'étais professeur de bouddhisme et de méditation et de tantra. Et je trouvais qu'avec ce moyen, cet outil, je pouvais aider beaucoup de monde à être mieux dans leur peau. Mais il manquait justement un peu de cet aspect de joie de vivre, d'allégresse, d'élan vital. Et il manquait surtout l'affectivité. En biodanza, nous disons que la biodanza est une méthode une poétique de la rencontre humaine. Tout ce qui manque à l'humanité, c'est de retrouver la capacité de se rencontrer, de s'aimer, de se retrouver cœur à cœur, de pouvoir se regarder dans les yeux et de pouvoir réveiller en nous ce qui fait que nous sommes en vie, ce qui est toute notre capacité de solidarité, de coopération, de grégarité. C'est ces mêmes qualités qui font que les planètes tiennent ensemble dans l'univers et que les organes tiennent ensemble dans notre corps, et que nous, en tant qu'individus, nous nous entêtons à vivre isolés et à chercher de plus en plus l'autonomie et l'isolement d'une certaine façon.
Surtout en Amérique du Nord, je dirais, et en Europe de l'Ouest, ou en tout cas, je ne connais pas les autres pays. Où on est très axé sur la performance individuelle, l'acquisition d'avoir, etc.
Voilà.
On oublie l'être là-dedans.
Toute notre culture nous pousse à oublier nos instincts.
Ouais.
On ne mange plus quand on a faim, on ne dort plus quand on a sommeil, on ne danse plus quand on a envie de danser, on n'embrasse plus les gens qu'on aime. Ouais. Et c'est ça, à travers la musique et à travers les émotions et à travers la rencontre, qu'on réhabilite en biodanza. Et on ne passe pas du tout par la parole. Pendant une séance de biodanza, on ne parle pas.
Alors là-dessus, nous allons, si vous le voulez bien, Dorothea, à la pause avec une chanson tout à fait dans le ton de Exil qui s'appelle « Kiss You All Over ». Alors à tout de suite.
I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah.
without you, baby, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you, need you, yeah. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over.
Alors, de retour de la pause, chers auditeurs, ici Jeannie Audrey-Lajoie. Je suis présentement en compagnie de Dorothea Pock qui nous parle de biodanza. Et justement, Dorothea, suite à notre discussion de tout à l'heure, je me faisais une réflexion à savoir que, au fond, la biodanza, donc, c'est plus une célébration.
Exactement.
Dans le vrai sens du mot, là,
exactement. Et en fait, on dit. On n'appelle pas un professeur de biodanza un professeur, on l'appelle un facilitateur.
Okay.
Parce qu'on n'a rien à apprendre à personne, on a juste à lui faciliter le chemin de retour à ce qu'il est en réalité.
Je croyais que vous étiez pour dire un célébrant, ça m'aurait rappelé des souvenirs que j'aime pas vraiment.
Non.
Oui, c'est finalement retrouver le sens de la fête. De la fête d'être humain ensemble et de fêter.
Oui, mais pas seulement de la fête, mais de retrouver ce qui est essentiel, retrouver la capacité de ressentir, de sentir c'est quoi nos besoins et ça, en fait, c'est un processus d'intégration. Pour la plupart d'entre nous, ce que je sens, ce que je pense et ce que je fais sont trois sphères totalement différentes. Qui ne sont pas d'accord et sont très souvent antagonistes. Mmh. Et donc, en biodanza, pas en passant par la psychologie et la thérapie et les mots, mais en ramenant l'individu à sentir profondément son propre désir, à sentir profondément ses propres sensations, on peut arriver à intégrer ces trois points-là, à que ce que je sens, ce que je désire et ce que je pense.
Enlever le masque que l'on se
exactement,
met.
Exactement. Et enlever cet éparpillement culturel que nous vivons, dans lequel nous sommes faussement convaincus que nous allons quelque part. Et en réalité, nous faisons seulement nous isoler.
Dorothea, j'ai parlé de ça au tout début de l'émission, vous n'étiez pas là, mais je parlais des codes, et je parlais justement de cette incapacité de retrouver le sens de où on vient. Où l'on est, où l'on va, justement, et vous en reparlez de façon très magique, magnifiquement. qui peut s'intéresser à la biodanza? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges?
Ça s'adresse absolument à tout être vivant. Moi, j'ai le privilège en ce moment, par exemple, de faire de la biodanza avec un groupe de personnes âgées, la plupart atteintes d'Alzheimer, avec très peu de mobilité, et sont tous en fauteuil roulant. Et c'est extraordinaire de voir comment un peu de rythme, un peu de contact humain, quelques regards dans les yeux peuvent amener ces gens à se sentir mieux dans leur peau, à communiquer les uns avec les autres, à être en contact. Ça se voit à vue d'œil, c'est clair de voir l'effet immédiat.
Et justement, quels sont ces effets-là auprès de cette clientèle-là de personnes âgées?
Une envie de bouger, une envie de communiquer, une meilleure digestion, une interaction, une communication entre eux aussi qui n'existait pas auparavant, le développement de liens d'amitié, toutes sortes de bénéfices.
Est-ce que, en fait, c'est le retour, je dirais, à la famille aussi?
Aussi, à se rendre compte que tout seul, on va nulle part et que on a besoin du contact avec les autres êtres humains pour être en santé. Ouais. On a besoin d'être touché, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être regardé.
Moi, je trouve que des gens comme vous, vous devriez faire de l'animation sociale et profiter. Hein? Vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait.
Amener la danse partout. Au fond, je pense justement vendredi prochain, le 17, il y a une fête autour des sans-abri au métro Baudry. Hier, en pensant à vous, je me disais, tiens, il faudrait que je l'amène au métro Baudry. On pourrait
Bonne idée.
Faire une séance de biodanza.
Je ne suis pas ici, malheureusement.
Mais pour finir
votre question d'avant, la biodanza est accessible à tout le monde. Ça se fait avec les enfants, ça se fait avec les personnes âgées. On fait de la biodanza clinique aussi avec des groupes cibles, des groupes spécifiques.
Ah bon?
Oui, ça se fait par exemple avec des malades de Parkinson, avec partout dans le monde. Ici, au Québec, pas encore autant parce que nous sommes en train de nous former pour ces spécialisations. Mais il y a énormément d'extensions de la biodanza qui ont beaucoup d'impact social et dans la santé des individus.
J'imagine. Est-ce que vous avez votre école à Montréal?
Il y a une école de formation de Montréal à laquelle j'ai été formée moi-même, qui est dirigée par 3 professeurs européens et de laquelle on est sorti une vingtaine de professeurs, de facilitateurs il y a 2 ans et où il y a un deuxième cycle de encore 25 facilitateurs qui vont finir dans 1 an.
Okay.
Alors peu à peu, mais on est plusieurs déjà. De nos jours à Montréal, on peut faire de la biodanza tous les soirs de la semaine à une place ou autre de la ville.
D'accord. Alors moi, je suis intéressée. À quel endroit il faut que je m'adresse là pour aller danser? Rapido, là, lundi, mardi.
Vous pouvez aller regarder sur le site qui est le site de l'association Biodanza Canada. Le site est donc www.biodanza.ca. Biodanza.ca. Et donc là, il y a toute l'information. Moi, personnellement, je donne des cours pour débutants tous les jeudis à 19h30 et vous pouvez
à Montréal,
oui, et m'écrire sur dorothea@commercialbiodanza.ca.
Ok, je spécifie que Dorothea, ça prend pas de H après.
Non,
alors,
D-O-R-O-T-E-A.
Oui, c'est
oui.
Ça. Moi, je l'écrivais avec un H hier, c'est pour ça. Alors, merci beaucoup, Dorothea, d'être venue à l'émission
grand plaisir.
Ce matin.
J'espère
que je vais pouvoir avoir l'occasion de trouver un prétexte de vous réinviter.
J'espère que vous allez trouver aussi un prétexte pour venir danser avec nous.
Absolument, absolument. Et chers auditeurs, je vous invite à faire la même chose que nous, comme moi, en tout cas. Alors, à bientôt.
Merci.
Eh bien, quant à nous, chers auditeurs, il est déjà temps de penser à nous quitter pour une autre semaine. Je tiens auparavant, cependant, à vous rappeler que vous pouvez toujours vous rendre sur Internet au site radiotonique.com Et là, vous pouvez avoir accès aux plages audio, des reportages des mois passés, ainsi qu'aux émissions et aux écrits qui sont relatifs à la production de cette émission. Vous serez toujours les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire, laisser vos commentaires. Il nous fera plaisir de communiquer avec vous et aussi de savoir que vous existez. Et ça nous fait toujours plaisir de savoir que nous, de notre côté, nous faisons une émission pour des gens qui sont dans notre cœur et que nous pouvons visualiser aussi quelque part. Je tiens aussi à faire une petite annonce aujourd'hui, étant donné que vendredi prochain, c'est ce qu'on appelle la vigile pour les sans-abri, qui s'appelle la Nuit des sans-abri à Montréal, mais aussi c'est un événement qui se tient dans 21 villes au Québec. Cette nuit-là est en l'honneur des sans-abri qui sont présentement, pour votre information, autour de 30 000 dans la région de Montréal. Ça fait beaucoup de monde. La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté et de désaffiliation sociale, d'itinérance et de cette détresse qui confronte de plus en plus, malheureusement, de plus en plus de Québécois. Depuis 1989, à chaque automne, plusieurs personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité et de fraternité, par souci de démontrer concrètement les conditions précaires, souvent intenables, des gens qui s'y confrontent au quotidien, surtout à l'automne, alors que l'hiver s'en vient. Alors, ils sont des milliers, ces gens-là, au Québec, à se retrouver face à cette situation. Vivre dans la rue n'est pas un choix. Alors, c'est sûr que concrètement, cette manifestation-là regroupe de plus en plus de gens. Je vais vous donner un petit peu un aperçu de ce qui va se passer ce soir-là. L'événement se trouve d'abord pour l'endroit. Alors, vous vous rendez au métro Baudry. L'événement se tient dans le stationnement tout près du métro Baudry qui se situe au 1710 de la rue Baudry, dans le stationnement du comité social Centre-Sud. À 17h30, le mot de bienvenue, il y a beaucoup de choses jusqu'à minuit. Il y a une représentation de la LNI à 21h40. On allume un brasero aussi, vous pouvez vous réchauffer entre-temps. À minuit, il y a une soupe de solidarité suivie d'une vigile qui se poursuit jusqu'à 6h le matin, où là, on offre le déjeuner qui s'appelle le déjeuner des braves au comité social directement. Alors, je vous convie chaleureusement de venir rencontrer ces gens que nous oublions trop souvent dans le tourbillon de nos activités un petit peu folles durant le reste de l'année, vous comprenez? Alors aussi, cette année, il y a deux prix qui seront décernés. D'abord, le pompon d'or qui ira à Dan Bigra pour son implication en faveur des personnes défavorisées. Et le pompon minute, cette année, sera décerné à rien de moins que Stephen Harper. Ça va lui faire du bien juste avant les élections d'avoir un prix, pour lui remémorer un petit peu sa responsabilité face à ces personnes aussi. Alors, merci à Dorothea Pock d'être venue nous éclairer aujourd'hui sur la biodanza. Merci aussi à la silencieuse Anna Martinez qui a été parmi nous en studio et qui a rempli le studio de sa présence douce. Ne quittez pas l'antenne, Haute Fréquence suit immédiatement. À la mise en onde, à la recherche, à la réalisation et à l'animation, Jeannie Audrey Lajoie, qui vous souhaite une très belle semaine et vous remercie de votre présence invisible, mais tout aussi tangible. Je vous souhaite un tas de petites joies pour chaque jour et chaque instant de cette prochaine semaine, jusqu'à notre prochain rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Radio Tonique. Nous fermons l'émission.
Vous avez envie de donner de votre temps à une cause et de faire partie d'une équipe dynamique? Voici ce qu'il vous faut. Le Chanon est une maison d'hébergement qui existe depuis 1932 et qui s'applique à soulager la souffrance et à rompre l'isolement vécu par des femmes qui sont aux prises avec de grandes difficultés telles que la maladie, tant mentale que physique, l'alcoolisme, la toxicomanie, la pauvreté, l'itinérance et la violence sous toutes ses formes. Pour vous joindre à l'équipe de bénévoles, communiquez directement avec le Chaînon au numéro suivant 514-845-0151, poste 272. Le Chaînon a besoin de vous.
Vous avez du mal à vous y retrouver dans le système de santé? Du 13 au 17 octobre, surveillez votre boîte à lettres. La brochure Accès Santé sera distribuée dans tous les foyers de Montréal. Une initiative de votre centre de santé et de services sociaux pour vous faciliter la vie.
OK! 3, 2, 1!
Tu aimerais que ta vidéo soit vue par des millions de personnes? T'as le goût d'aider les autres? Sors ta caméra et réalise une publicité sur le bénévolat. Et cours la chance de l'avoir diffusée plusieurs dizaines de fois à la télé couleur.